Alors, cette quatrième semaine du procès en appel des financements libyens était en quelque sorte la semaine Nicolas Sarkozy, parce que l'ancien président a été interrogé pendant 3 jours, à la fois par le président de la Cour, Olivier Géron, à la fois par les avocats et les avocates des parties civiles. Et on peut résumer cette semaine d'une phrase. Nicolas Sarkozy a été le ministre de l'Intérieur et le président de la République le moins bien informé de France. En revanche, il a décidé de charger tout le monde autour de lui. Ce qui est stupéfiant quand on assiste aux auditions de Nicolas Sarkozy, c'est qu'on a l'impression que l'ancien ministre de l'Intérieur, l'hyper-président de la République qu'il a été, préfère, devant les magistrats, passer pour mal informé plutôt que malhonnête. Et si on résume, nous avons un ancien ministre de l'Intérieur dont les plus proches collaborateurs ont rencontré à 3 mois d'intervalle, secrètement à Tripoli, un terroriste condamné et recherché par la France, Abdallah Sennoussi. Nicolas Sarkozy n'en savait rien. Ses deux plus proches collaborateurs fréquentaient l'agent de corruption assidûment, Ziyad Takieddine, avec lequel il rencontre le terroriste Abdallah Sennoussi. Il n'en savait rien. Son avocat, Thierry Herzog, qu'il présente lui-même sur procès-verbal comme son meilleur ami, s'envole à Tripoli exactement dans la même période pour rencontrer l'équipe de défense pénale du terroriste Sennoussi et voir comment on peut rendre inopérant le mandat d'arrêt français qui le vise. Nicolas Sarkozy n'est pas au courant. Il y a des enveloppes de cash qui circulent en grosses coupures pendant la campagne présidentielle. Nicolas Sarkozy n'en avait pas été informé. Son directeur de campagne, Claude Guéant, toujours le même, avait ouvert une chambre forte pendant la campagne présidentielle. Nicolas Sarkozy, là encore, n'en savait strictement rien. On voit bien que le président de la Cour, Olivier Géron, essaye de s'installer dans le raisonnement de Nicolas Sarkozy et, si j'ose dire, si on me permet l'expression, de récurer les moindres angles de sa stratégie pour voir si elle tient sur des fondations solides ou est-ce qu'elle a plutôt à voir avec quelque chose de peu vraisemblable, voire de peu rationnel. Il y a peut-être un élément qui est passé un peu inaperçu pendant les audiences, mais dont je trouve qu'il est très significatif de l'extrême faiblesse de la position de Nicolas Sarkozy. L'ancien président a dû admettre que quand il était ministre de l'Intérieur, en 2003 et 2004, il avait personnellement validé un voyage de Brice Hortefeux et de Claude Guéant avec Ziyad Takieddine en Arabie Saoudite pour aller signer un énorme contrat d'armement. Voyage dont il a dit que ses deux plus proches collaborateurs, quand ils sont revenus, lui ont débriefé le déplacement. Il a dit aussi et même reconnu que ses deux plus proches collaborateurs l'avaient personnellement représenté en Arabie Saoudite pour conclure ce contrat dont on sait que le président Jacques Chirac y a mis fin parce qu'il suspectait déjà en 2004 des financements occultes dans la perspective de la campagne présidentielle de 2007. Et voilà que c'est un mot du président de la Cour d'appel, il y a comme un parallélisme des formes avec ce qui va se passer seulement un an plus tard en Libye. Des déplacements de ses deux collaborateurs, les mêmes, avec le même agent de corruption, Ziyad Takieddine. Et là, Nicolas Sarkozy, de manière étrange, n'a jamais rien validé. Ses deux collaborateurs ne lui ont rien rapporté, et c'est à peine s'il le représentait personnellement. Il demeure également un document, un élément matériel sur lequel Nicolas Sarkozy avait déjà buté en première instance et sur lequel il tourne pour tenter de le décrédibiliser en appel. C'est ce qu'on appelle les fameux carnets de Choukri Ghanem, un ancien dignitaire libyen dont on a découvert qu'il consignait en 2007 à la main, dans une sorte de journal intime, des versements pour la campagne de Nicolas Sarkozy. Or, les montants qu'il consigne, le nom des dignitaires qu'il cite et qui sont censés avoir envoyé des fonds pour financer la campagne, il se trouve que tout ça est retrouvé dans des comptes bancaires des deux principaux intermédiaires de l'équipe Sarkozy dans cette affaire. Alors là, Nicolas Sarkozy a développé une nouvelle version et on doit dire qu'on a parfois un peu de mal à suivre le raisonnement puisque pour lui, en réalité, les dignitaires libyens avaient habillé une sorte de détournement de fonds à leur profit en faisant croire à un financement illégal de campagne. C'est déjà admettre que les Libyens ont versé de l'argent, peut-être pour financer la campagne. Il y a une attitude qui, je crois, a marqué absolument toutes les personnes qui ont pu assister aux audiences et aux auditions de Nicolas Sarkozy, c'est la manière avec laquelle l'ancien chef de l'État a décidé de sacrifier ses plus proches collaborateurs dans ce procès. Brice Hortefeux, d'un côté, dont il parle de fautes qu'il a pu commettre, mais surtout Claude Guéant, au sujet duquel il a eu des mots et des sous-entendus très durs, comme quand il est interrogé sur son ancien bras droit. « Moi, dit Nicolas Sarkozy, je n'ai pas honte de ce que j'ai fait. » Ça n'est pas le cas de tout le monde quand je lis le dossier. Entre guillemets, suivez mon regard, en désignant de manière à peine voilée Claude Guéant. Le comportement de Nicolas Sarkozy peut susciter d'autant plus de malaise qu'il décide de sacrifier Claude Guéant alors que celui-ci n'est pas là. L'ancien secrétaire général de l'Élysée est malade, sa santé est extrêmement dégradée et donc il est dispensé d'assister aux audiences. Il est peu de dire que Nicolas Sarkozy joue un jeu dangereux avec cette attitude, et pour cause, l'avocat de Claude Guéant a dit à notre consoeur de l'opinion, en dehors de la salle d'audience, que son client considérait que les accusations de Nicolas Sarkozy à son encontre étaient extrêmement graves. Alors, mardi prochain, ce sera le moment des questions de la défense, notamment de celle de Claude Guéant à Nicolas Sarkozy, et on saura éventuellement quelle est la position de Claude Guéant dans l'enceinte de la cour d'appel sur cette question. Mediapart.